Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
La moitié sud du pays a donc vécu un dimanche brûlant, jusqu'à 43,4 degrés à Argeliers dans l'Aude.
On va vivre dans le frigo jusqu'à la fin de l'été, puis c'est tout.
Cela relève de l'éco-terrorisme.
How dare you !
Je ne crois pas au modèle Amish.
Mais vous êtes dingue !
Il va aller sur la terre !
Là, il est temps aussi peut-être un peu de désobéir.
Sainte-Soline, à 69, plusieurs luttes pour l'environnement ont été très médiatisées ces dernières années.
Pourtant, à l'image de la contestée loi du plomb, la législation environnementale est peu à peu détricotée.
L'écologie n'a plus la cote chez les politiques et les médias.
Certains n'hésitent plus à qualifier les militants écologistes d'éco-terroristes.
Un violent retour de bâton qu'on retrouve à l'échelle planétaire, 10 ans après les accords de Paris.
Depuis le début de l'ère pré-industrielle, la température moyenne de la Terre a augmenté d'1,5 degré.
Les climato-sceptiques, notamment présents à l'extrême droite, s'emparent du pouvoir politique, comme en Italie, aux États-Unis et en Argentine.
Assistons-nous réellement à un retour en arrière ?
L'écologie politique est-elle morte et enterrée ?
La lutte environnementale est-elle cantonnée à l'échelle locale ?
Un autre monde est-il possible entre convergence et dépassement du capitalisme ?
Vert de rage, une série documentaire en 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Fruit de l'incessante exploitation de la nature par les humains, la crise climatique révèle des inégalités toujours plus fortes. Pourtant, selon l'essayiste et membre du collectif Front de mer Fatima Wassak en mai 2025, l'écologie est trop blanche et bourgeoise. L'enjeu ici, c'est la convergence des luttes, c'est-à-dire rassembler dans un même mouvement social des enjeux différents, mais qui peuvent et doivent s'articuler ensemble. Alors, comment penser une écologie inclusive, qui rassemble et qui permette d'avancer main dans la main vers un avenir durable et respectueux de l'humain et de la planète ?
Dans Envers et contre tous, la parole des femmes est claire. Qu'elles soient militantes, artistes, chercheuses ou tout ça à la fois, elles nous ont raconté comment penser et vivre l'écologie sous le prisme de la convergence des luttes. Militer pour l'environnement en restant aveugle aux luttes féministes et antiracistes serait-il vide de sens ? À travers le regard et les histoires d'Anna Bicouloulou, Mylène Ferrand, Priscilla Zamor et Gabriela Larrea Almeida, Envers et contre tous vous invite à voir plus loin et plus beau pour un avenir en vert et en violet.
Paris, 10h32. Anna Bicouloulou nous reçoit chez elle, dans le 13e arrondissement. Âgée de 27 ans, elle a déjà un long parcours politique derrière elle. Diplômée de sciences politiques et activiste, elle était, jusqu'en juin dernier, secrétaire nationale des jeunes écologistes. Aujourd'hui, elle s'implique au quotidien dans le parti Europe Écologie Les Verts et est actuellement en campagne municipale dans le 13e arrondissement de Paris. Elle nous a accueillis pour nous expliquer en quoi la lutte écologiste ne peut s'envisager sans le combat antiraciste et féministe. Pour Anna Bicouloulou, les luttes écologistes, féministes et antiracistes dépendent des mêmes ressorts de domination. Elle souligne l'importance de faire converger les luttes face à des dominations qui touchent aussi bien les femmes que la planète.
C'est plus que jamais d'actualité. Les violences qui sont faites aux femmes, aux personnes minorisées et à la planète, en fait, dépendent des mêmes ressorts. Il faut qu'on fasse un travail très lié pour réussir justement à démonter ce système de domination et d'oppression. Les personnes qui s'organisent pour détricoter toutes nos lois, qui mettent en place des lois climaticides. Ce sont aussi les mêmes personnes qui vont voter contre nos droits. Juste prendre une part du combat, en fait, c'est pas assez. Il faut à minima qu'on arrive à conceptualiser le combat pour derrière mieux organiser notre riposte, quoi.
Rappelez-vous, le 26 mai dernier, le sénateur Laurent Duplomb présentait un projet de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Cela en réintroduisant un insecticide extrêmement toxique et dispersable, l'acétamipride. Une pétition contre cette loi avait reçu, cet été, plus de 2 millions de signatures. Résultat, malgré l'adoption de la loi le 9 juillet 2025, un mois plus tard, le Conseil constitutionnel validait lui aussi la loi à une exception près. Il s'opposait à la réintroduction de l'acétamipride. Un exemple de victoire citoyenne et une illustration concrète des réponses que peut apporter la convergence des luttes.
Ce qui s'est passé cet été avec la pétition sur la loi Duplomb est plutôt encourageant. On a quand même vu qu'on savait un peu faire cette convergence des luttes quand il le fallait. La loi Duplomb, ça touche à tout. Ça touche à la fois à la question des lobbies, ça touche à la santé. Enfin, je veux dire, ça touche à tout. Là, bah, justement, on a des organisations d'un peu partout qui se sont rassemblées. On a vraiment eu la convergence des luttes des agriculteurs jusque des citoyens, citoyennes. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre. C'est réussir à faire la place à tous ces discours pour que juste on arrive à avoir la plus juste représentation de ce que la société est réellement et qu'on ne soit pas tous en train d'essayer de plaquer des choses sur des gens qui ne leur parlent pas, qui ne les représentent pas et qui ne sont quelque part pas vrais.
Si la loi Duplon est un exemple concret d'une bonne application de la convergence des luttes, pour comprendre tous les ressorts de cette notion et de sa concrétisation, nous avons rencontré Priscilla Zamore. Élue rennaise et 11e vice-présidente de Rennes Métropole en charge des solidarités, de l'égalité et de la politique de la ville, Priscilla Zamore est avant tout une militante écologiste. Elle prône pour une convergence des luttes et la place au cœur de son projet politique. Au cours de notre entretien, elle a insisté sur la nécessité d'une représentation large des femmes et des personnes racisées en politique. Elle-même antillaise, elle revient sur une illustration marquante de ces enjeux, le scandale du chlordécone.
Ça vient complètement détruire les modes de solidarité informelle alimentaire qui sont liés au jardin créole, qui par exemple est un outil puissant hérité de l'esclavage, où chaque Antillais développe, enfin en tout cas dans la mesure du possible, mais il y a une culture quand même d'avoir son propre jardin vivrier derrière sa maison, et que du coup, comme la terre est contaminée pour plus de 700 ans, et ben en fait on peut plus cultiver comme avant, alors que ça c'était aussi un outil de lutte contre la précarité. Et que ça permettait aussi de développer du lien social avec les voisins, s'entraider, se donner des choses. Puis c'est, le jardin créole, c'est aussi reconnu hein, par l'INRA comme un des premiers outils de permaculture. On est aussi sur une contamination sanitaire, une contamination environnementale, mais aussi une contamination sociale et culturelle, où tout ça est mis à mal. Et puis après, il y a la dimension politique, où on se rend compte que tout ça fait partie d'un système, avec tentaculaire. IOT, qui est le gros système... géré par le béquet le plus puissant aux Antilles et aussi dans l'océan Indien, qui détient la majeure partie des richesses, avec ces subalternes qui ont fait aussi l'importation du chlordécone. Donc c'est un système féodal, une économie féodale et capitaliste qui en fait existe encore en Martinique, en Guadeloupe et dans les autres territoires ultramarins, parce que justement ce sont aussi des endroits où sont majoritairement concentrées des personnes racisées, et donc on ne peut en avoir qu'une lecture coloniale. Enfin, c'est vraiment du colonialisme moderne, contemporain. Ce genre de choses ne se serait pas produit en Hexagone. Une telle contamination sanitaire, un empoisonnement, c'est un écocide, et c'est aussi une question de santé publique. Il y a des vraies problématiques d'accès à l'eau aux Antilles, il y a des vraies problématiques de pouvoir d'achat. Et en fait, tout ça, c'est une ramification, et derrière ça, c'est toujours les mêmes personnes qui sont à la manette, quoi.
Comme Anna Bikouloulou, Priscilla Zamore prône la nécessité d'une convergence des luttes. Pour elle, cette notion est la clé afin de lutter contre des dominations qui persistent et des déséquilibres systémiques.
C'est systémique, et le démantèlement de ces économies coloniales, ça passera que par une convergence des luttes, à mon sens. Des luttes aussi bien mémorielles que des luttes sociales, des luttes environnementales, des luttes féministes aussi, puisque le plan chlordécone, il a fallu quand même des militants et des agricultrices montent au créneau, parce qu'à un moment donné, la prise en charge sanitaire de détection du chlordécone et des soins qui y étaient derrière, elle était majoritairement pour des hommes, puisque c'était lié au cancer de la prostate. Sauf qu'il y a plein de femmes qui ont chopé des cancers liés au chlordécone. Donc quand on dit prise en charge du cancer de la prostate, on oublie tous les autres cancers, et à savoir le cancer du sein, etc., etc.
Ce phénomène d'invisibilisation n'est pas uniquement observable dans les territoires ultramarins. Dans la métropole également, Anna Bikouloulou dénonce une organisation spatiale empreinte de racisme environnemental, un concept qui est encore assez absent des discours politiques français. Pourtant, aux États-Unis, le mouvement pour la justice environnementale s'en est saisi dès les années 1970. Anna Bikouloulou rappelle d'ailleurs l'importance d'appliquer à cette notion la lutte écologiste d'aujourd'hui.
C'est là que vient la question du racisme environnemental. Il y a un phénomène déjà qui n'est pas nouveau, qui est que socialement, les personnes plus dominées ont toujours été un peu repoussées en dehors des centres-villes, dans les zones les plus industrialisées, les zones où vous allez se prendre les vapeurs des usines. Ce dont on s'est rendu compte, c'était qu'à mesure que d'autres populations immigrées arrivaient, devenaient les nouveaux exclus de la société, ces personnes se retrouvaient elles aussi de plus en plus repoussées dans les zones où personne ne voulait aller.
Le droit à la santé est reconnu par notre constitution. Pourtant, dans les quartiers prioritaires, l'accès à la santé est compliqué par des problématiques économiques et géographiques. Malgré l'absence de statistiques ethniques en France, selon l'INSEE, en 2024, les personnes étrangères et immigrées représentaient respectivement 23% et 28% de la population de ces quartiers. Entre accès difficile aux soins et discrimination géographique, le racisme environnemental a des conséquences dramatiques sur la santé des personnes qui le subissent.
les statistiques qu'on a sur les personnes qui ne sont pas nées en France, que on recoupe ça par l'endroit d'habitation, donc plutôt dans des quartiers populaires, etc. On voit quand même que ce sont des endroits qui vont plus être proches des autoroutes, des périphériques, etc. Parler de racisme environnemental, c'est aussi réussir à pointer ce type d'injustice-là tout particulièrement, qui a des conséquences qui sont véritablement dramatiques, à la fois sur la vie des gens, sur la question de l'accès aux droits de ces personnes. Quand on regarde aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui eux ont des statistiques ethniques, on voit que les personnes racisées ont des espérances de vie moins hautes que le reste de la population et sont aussi surreprésentées dans certains types de maladies, notamment des maladies cardiovasculaires, notamment des maladies respiratoires, qui sont aussi liées à l'environnement de vie.
À Rennes, de nombreuses personnes subissent du racisme environnemental selon Priscilla Zamor. Pour elle, il s'agit de lutter contre des discriminations persistantes et dont les conséquences dramatiques en font un enjeu de santé publique.
L'ARS a commencé à pointer du doigt qu'il y avait quand même peut-être un lien à faire entre les pesticides au sud de Rennes et le nombre de personnes autistes dans le quartier du Blône. Enfin voilà, il y a peut-être des choses comme ça qu'il faut travailler. Et ça, c'est des inégalités environnementales, en fait, qui sont liées à voilà, concentration de population racisée, à un endroit où à côté, il y a des pesticides. Ça va être quelle est la situation des gens du voyage, dont on parle jamais. Où est-ce que les campements, ils sont, moi j'appelle ça, enfin, les aires d'accueil, sont-ils des campements ou sont-ils des vraies aires d'accueil bien équipées avec tout ce qu'il faut? Est-ce que c'est près des services publics? Pas du tout. Du transport? Est-ce que c'est dans une zone industrielle? Près d'une usine? Donc en fait, une fois qu'on chausse ces lunettes-là, c'est de tout regarder en fait.
Si le communautarisme est régulièrement invoqué par l'extrême droite dans ses discours, Anna Bikouloulou rappelle que cette notion découle directement d'un racisme environnemental systémique qui s'impose aux populations.
Ce qu'il faut réussir aussi à questionner, c'est quelle place on laisse aux personnes. C'est trop facile dans nos discours de dire « Ah, bah regardez, communautarisme » et en même temps d'être les acteurs du fait de mettre les gens au rebut de la société, de littéralement enfermer des gens dans des endroits où personne d'autre ne voudrait vivre, de ne leur donner absolument aucune condition digne, de ne leur donner absolument aucune possibilité d'en sortir. Enfin, en fait, ça, c'est un problème qui est systémique, ça, c'est du racisme, et précisément du racisme environnemental, puisque ça touche leurs conditions de vie.
Vous êtes toujours sur Canal B. Vous écoutez la série documentaire « Vers de rage » réalisée par les étudiantes et étudiants du Master Journalisme de Sciences Po Rennes.
Priscilla Zamor rappelle alors la nécessité de repenser les discours, décentrer les points de vue et ne plus considérer les territoires ultramarins comme des territoires périphériques.
L'Europe reconnaît les Outre-mer comme des régions ultra-périphériques. Donc rien, déjà rien dans le terme, c'est une violence institutionnelle. Donc c'est de redire aussi que les centres ne sont pas toujours là où ils sont, qu'en fait on peut aussi se décentrer et qu'il y a plein de choses qui se sont passées aux Antilles qui ont été invisibilisées, moquées, disqualifiées, mais les 44 jours de grève qui se sont passés en Guadeloupe avec Élie Doumoudin, en fait c'était déjà les prémices des Gilets jaunes. Et que tout ce qui s'est passé récemment sur les révoltes par rapport au pouvoir d'achat, c'est très inspirant sur dans d'autres territoires, quoi.
Pour Anna Bikouloulou, lutter contre le racisme environnemental ne peut s'envisager sans déconstruire l'histoire coloniale et les dominations et pratiques qui en découlent.
L'écologie décoloniale, c'est les pays du Nord en tant que pays qui ont été acteurs de la colonisation et d'une décolonisation ratée, ont importé, ou du moins ont encore dans leur société, des réflexes néocoloniaux vis-à-vis des corps et des terres, des personnes anciennement colonisées. Précisément, pour mettre fin au racisme environnemental, il faut aussi réussir à déconstruire toute l'histoire coloniale, toute l'histoire néocoloniale, toutes les pratiques qu'on a, même sans le savoir, et qu'on continue de pratiquer.
À Rennes, une ville qui vote à gauche depuis 50 ans, le racisme environnemental et un manque de représentation sont pourtant notables. Priscilla Zamor rappelle que la lutte écologiste, féministe et antiraciste ne peut s'envisager sans donner une voix et une réelle place aux femmes et aux personnes racisées.
Comment on fait pour que l'écologie politique pensée par les personnes racisées, elle ait une voix au chapitre? Donc d'organiser nos propres événements, de redire à quel point les partis politiques de gauche et écologistes sont vraiment à la traîne sur la représentativité des personnes racisées. Donc décoloniser l'écologie, c'est aussi décoloniser l'écologie à ces endroits-là, quoi. En tant que femme racisée, je suis la seule élue racisée au sein du groupe écologiste et citoyen. Et après, on est au sein de la majorité, donc PS, Écolo, Génération.S, Parti Radical de Gauche, Parti Communiste. En fait, on est deux personnes racisées et c'est quand même problématique.
Priscilla Zamore et Anna Bikouloulou, par leur parcours professionnel et leur combat, soutiennent un renversement global. Pour lutter contre un système qui oppresse à la fois les femmes, les personnes racisées et la planète, faire converger les luttes n'est pas seulement un concept, mais bien une nécessité.
Pour une fois.
Vous venez d'entendre le titre Les Séquoias de la chanteuse Pomme.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez la série documentaire Vert de Rage, réalisée par les étudiantes et étudiants du Master Journalisme de Sciences Po Rennes.
En 1974, la romancière et philosophe française Françoise Daubonne fait apparaître le terme d'écoféminisme pour la première fois. Pourtant, si le terme est né de la théorie, il évolue rapidement vers la pratique par le biais de femmes de toutes origines qui s'en saisissent et l'appliquent à leur lutte. Le mouvement écoféministe était né et résonnait dans les rues. Pour comprendre ses ressorts historiques et actuels, nous avons échangé avec Mylène Ferrand, historienne de l'art, critique d'art, commissaire d'exposition. Elle nous a expliqué ce qui lie, depuis ses débuts, le mouvement écoféministe avec la créativité.
Initialement, c'est pas un mouvement de philosophes. C'est un mouvement de femmes qui luttent et qui sont descendues dans la rue pour défendre leur milieu de vie et donc pour défendre la vie de leur famille, de leur communauté, de leur milieu de vie, de leur biotope et de l'endroit où elles vivent.
Pour allier la théorie à la pratique, Gabriela Larrea Almeida nous a raconté la genèse de son travail. Artiste, photographe et co-créatrice du collectif L'Inconnu, Gabriela Larrea Almeida explore les corps en mouvement, l'identité et le lien au vivant à travers des supports et des techniques diverses. Originaire d'Équateur, son histoire familiale et son enfance à Quito, entourée par la nature, l'ont sensibilisée à l'écoféminisme,
qu'elle traduit pleinement dans son travail artistique.
Moi, être écoféministe, c'est reconnaître vraiment l'indépendance de plusieurs formes de domination sur les femmes et sur la nature, mais aussi voir voir vraiment en face les idées classistes, raciales et coloniales qui existent dans nos sociétés actuelles. En gros, toutes ces formes de hiérarchisation sociale sont vraiment liées à la domination patriarcale et capitaliste. Et je trouve qu'il faut déjà savoir les reconnaître parce qu'on est nombreux à ne pas les voir, parce que tout dépend de ses propres biais. Donc déjà à reconnaître, donc les mettre en face, quoi, accepter. Ensuite, pour pouvoir les déconstruire. Et ensuite, pouvoir les détruire et proposer autre chose. Évidemment, l'objectif de l'écoféminisme est variable en fonction des sujets de prédilection, mais de façon voilà générale, en tout cas ce qui me concerne, c'est plutôt de créer une société égalitaire, juste et qui protège le vivant.
Pour Mylène Ferrand, les dominations subies par les femmes et la planète dépendent des mêmes ressorts. Elle préconise alors une lutte globale qui vise et le système capitaliste et celui patriarcal dans leur globalité.
Les positions exclusives me paraissent absolument obsolètes. Justement, le point fort de l'écoféminisme, des écoféminismes, c'est d'avoir permis de comprendre que différentes formes d'oppression s'appliquent en même temps à différentes personnes et sur différents domaines. Et qu'il existe des parallèles entre ces formes de domination. Toutes ces dominations ne peuvent être comprises qu'ensemble, c'est-à-dire elles ne pourront être démêlées qu'ensemble.
Pour Gabriela Larrea Almeida, l'héritage colonial de l'Amérique latine joue un rôle dans l'élaboration d'une conception intersectionnelle des luttes. De fait, des liens entre les corps, la terre et le vivant existent depuis toujours.
De façon générale, en Amérique latine, vraiment l'écoféminisme, j'ai l'impression que c'est pas du tout une nouveauté. Et en Amérique latine, c'est un peu monnaie courante, quoi, de penser comme ça. Mais là-bas, étant donné que ce sont d'abord les autochtones qui étaient présents et que finalement leur culture a été peu à peu effacée par évidemment le colonialisme espagnol, par le christianisme qui a essayé d'étouffer les rituels qui étaient plutôt considérés comme paganistes. Donc il y a très peu de... Enfin, finalement, la culture indigène et métisse n'est pas très bien valorisée.
Contrairement à d'autres mouvements centrés uniquement autour du volet politique, l'écoféminisme place la créativité au cœur même de son combat. La créativité apparaît alors comme une clé pour comprendre les ressorts de ce mouvement, mais aussi un moyen concret pour lutter contre un système qui oppresse.
Ce qui singularise l'écoféminisme, les écoféminismes, eh bien, c'est d'avoir mis au cœur de ce mouvement la créativité.
Cette dimension créative trouve écho dans la pratique de Gabriela Larrea Almeida. L'artiste cherche à éveiller chez son public des questionnements, qu'ils soient intimes ou sociétaux. C'est en interpellant le public et en créant un dialogue avec lui qu'elle ambitionne d'ouvrir les esprits à certains concepts comme l'écoféminisme. Elle souhaite créer du dialogue là où il est parfois absent, mais aussi réintroduire le sensible, les émotions, le ressenti, nous livre-t-elle.
Je cherche à éveiller, à échanger en fait autour de ce ressenti avec l'observateur. Et donc c'est vraiment un moment crucial dans mon processus créatif. Enfin, une artiste pour moi, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, on est engagé, que ce soit envers son art, que ce soit via ses convictions, que ce soit de façon plus militante et personnelle, l'engagement est là, quoi, tant qu'on est artiste. Je trouve que l'art va transcender ce... Certaines fois, on a l'impression de ne pas pouvoir échanger avec l'autre parce qu'il a déjà ses idées arrêtées et il voit que sa propre réalité via ses propres prismes. Alors que finalement, l'art peut transcender ce clivage, je trouve. Ce moment d'échange va nous permettre d'apaiser les choses ou d'entrevoir une autre façon de penser sans forcément partir dans le conflit. Dime, dime, dime,
Dime si nena a ti te asusta la luna. Nena, ¿y por qué otros se obsesionan con lo nuevo?
C'était Nenita d'Eda Diaz.
Au-delà du fait qu'il soit un espace d'échange avec le public, l'art permet à l'écoféminisme de redevenir plus accessible et de le faire sortir d'une bulle académique.
Pour moi, l'art, il est extrêmement important vis-à-vis du mouvement écoféministe et vis-à-vis de comment on le comprend. C'est-à-dire qu'il permet de sortir d'une part de l'académie comme étant l'origine du mouvement, ce qui est faux. Ensuite, il permet de sortir du centrisme philosophique sur l'écoféminisme, donc ça me semble tout à fait crucial. C'est un mouvement qui est transdisciplinaire à la base, qui est né dans la rue, de personnes qui sont sorties parce qu'elles étaient révoltées de ce qui se passait et qu'elles avaient peur pour leur vie, pour celle de leur communauté, pour celle de leur famille. Donc ça me semble tout à fait important de sortir du fait que l'écoféminisme, d'une part, soit uniquement universitaire, qu'il soit uniquement centré sur le logos, qu'il soit uniquement centré sur la philosophie. Non, je pense qu'il faut maintenant écrire une histoire de l'écoféminisme dans toute sa créativité et dans toutes ses diversités créatives, et qu'il est urgent également de montrer que c'est un mouvement qui a souhaité explorer d'autres sens qu'uniquement le sens du verbe et de la parole et le sens visuel.
Pour Gabriela Larrea Almeida, la convergence des luttes ne se situe pas à Paris ou à Quito de façon indépendante, mais s'étend au-delà des frontières, car les luttes climatiques, antiracistes et féministes sont interconnectées. Elle croit alors à la nécessité de porter une vision décentrée du combat écoféministe et décolonial.
On déborde des frontières et vraiment on puisse toucher le plus de monde possible. De toute façon, tout ce qui se passe actuellement, toute l'actualité internationale, fait qu'on est vraiment de plus en plus liés les uns aux autres. En fait, on a ce qui se passe en Équateur va impacter ce qui va se passer en Colombie, inversement. Nous sommes tous liés d'une façon ou d'une autre, mais le fait d'être ici, moi, basée en France, à Paris, ne me coupe pas de tout ça, en fait. Je suis vraiment... Je ne pense pas frontière, au contraire.
Ces visions croisées, à la fois globales et sensibles, qui placent l'art au centre de la démarche écoféministe, permettent de montrer qu'il est possible de lutter autrement.
Vous avez écouté Envers et contre tous, un documentaire réalisé par Inès Panlou et Louise Bocquin. Nous avons entendu Les séquoias de pommes, Les montagnes avec d'Afar Chamsi, Otslo de Berlioz et Nenita d'Eda Diaz. Nous remercions Anna Mikouloulou, Mylène Ferrand, Priscilla Zamor et Gabriela Larrea Almeida pour leurs précieux éclairages.
Dans le prochain épisode de Vers de Rage, une série documentaire en 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants en journalisme de Sciences Po Rennes, Marine Moine, Ewen Dubé et Garant Lintanf vous exposeront des pistes de réflexion pour envisager un monde viable et respectueux du vivant.